Il est 8h.
Quand on voit la contagiosité de cette maladie, eh ben, obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
C'est la grande différence avec la première vague pointée par ce médecin d'un village alsacien. Le virus est partout. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron va annoncer ce soir un reconfinement généralisé. Dans ce journal, on vous révèle comment le chef de l'État a pris sa décision dès dimanche, bien avant les conseils de défense et les consultations hier à Matignon. Côté politique, beaucoup de reproches sur la méthode. Côté syndicat, une voix appelle à l'unité, celle de Laurent Berger, patron du premier syndicat de France.
Je commence à avoir un peu d'expérience. Rarement j'ai senti autant de gravité et de responsabilité. On se bataillera encore sur d'autres sujets, mais là, concentrons-nous sur notre responsabilité commune.
Et comment les Français vont-ils accepter ce nouvel isolement forcé? Vous entendrez qu'en Italie, les nouvelles mesures provoquent des émeutes. Dans ce journal, l'Amérique, élection présidentielle J-6 et direction le plus incertain des États-clés, dixit la presse américaine, la Caroline du Nord. Le vote des jeunes y sera décisif. Et puis, le Paris Saint-Germain, ce soir, face au FC Erdogan. Match ce soir contre Başakşehir Istanbul, club préféré de celui qui mène la fronde anti-française dans les pays musulmans.
Juste après ce journal, la question sanitaire, le débat politique et la question. Nos entreprises vont-elles survivre à un deuxième confinement? Mon invité était reçu par le Premier ministre hier soir. Il est sur Europe 1 ce matin. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, à 8h15. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une replongée dans le huis clos du confinement et pour nous tous, allocution d'Emmanuel Macron ce soir, 20h à suivre sur Europe 1.
Nous voulons vous emmener ce matin en Alsace, dans un tout petit village du Bas-Rhin, 1200 habitants, qui résume à lui seul le choix du reconfinement généralisé.
Le virus est partout, loin des grandes métropoles et de leur capacité hospitalière. Il frappe de plein fouet aussi les zones rurales. Nous sommes ce matin à 40 km de route de l'hôpital de Strasbourg, Arthur Mbaché.
Grendelbruch, son église, sa supérette, son taux d'incidence supérieur à 1000.
C'est la merde. Vous pouvez être paumé là sur votre rocher à méditer en haut, ça peut vous toucher aussi.
Voilà, nous sommes une petite commune, hein, village de montagne. On devrait un peu être à l'écart de tout ça.
Ben moi j'ai des amis qui sont, oui, effectivement, qui sont positifs.
Chez le généraliste du village de Dr Stab, 0 cas du 11 mai, la fin du confinement, à il y a 10 jours, 40 cas. Depuis 10 jours.
Si vous êtes symptomatique, si vous avez des signes digestifs et que vous habitez actuellement dans le village, dans votre rue, il y en a plein. Donc, préfère vous conseiller de faire les tests tout de suite. Ok, allez, au revoir.
Quand on voit la contagiosité de cette maladie, eh ben, obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
Ville, campagne, tous égaux face au virus, pas tous égaux face au confinement qui peut-être se profile.
Ben, d'abord parce que le paysage, hein, je plains les gens qui ont un appartement, 3 pièces, pas de balcon, un chien et 3 enfants.
On a la chance d'avoir tous plus ou moins des maisons, hein, donc on peut sortir, on a des extérieurs.
Au pied du massif du Champ du Feu, dans la vallée de la Bruche, Arthur Mbaché, Europe 1.
Reconfinement généralisé aussi parce que la tension hospitalière s'aggrave. Ce matin, la moitié des services de réanimation est occupée, 2900 malades pour une capacité de 5800 lits. Vous avez entendu, hein, Rémi Salomon, mon invité, il y a une vingtaine de minutes, il faut que l'hôpital tienne la deuxième vague et pire que la première.
Et face à ce durcissement des mesures, deux sons de cloche très différents. Écoutez d'abord Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, reçu hier avec les partenaires sociaux par le Premier ministre Jean Castex.
Au sein de la salle, là, je commence à avoir un peu d'expérience. Rarement j'ai senti autant de gravité et de responsabilité. Et je crois que c'est le rôle de tous ceux qui exercent une responsabilité aujourd'hui, qu'elle soit politique, syndicale, économique, et même, j'ai envie de dire, médiatique, de ne pas essayer de mettre le doigt sur ce qui va nous diviser. Et il y a bien des sujets sur lesquels on peut le faire, mais de mettre le doigt sur ce combat qui doit être le nôtre aujourd'hui pour essayer de stopper, en tout cas freiner ce virus. On le doit à nos soignants. On le doit à tous ceux qui sont exposés, et ce n'est pas que des personnes âgées. Mais pour ça, il va falloir protéger ceux qui sont le plus en difficulté, que ce soit dans le monde économique ou dans la société, et je pense notamment aux plus fragiles et aux jeunes.
Tonalité différente chez les responsables politiques, eux aussi reçus par Jean Castex. Là, aucune unité. Ils en sont sortis très remontés.
Colère de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National.
Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas, tout en nous indiquant que le Parlement sera amené à les voter après que le président de la République les ait décidées et annoncées. Très honnêtement, c'est pas sérieux.
Alors cette colère est-elle justifiée? L'opposition a-t-elle été consultée? Il semblerait que non. Nous vous expliquons quand, comment, par qui, la décision d'un reconfinement a été prise.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
C'est une information Europe 1, vous nous le révélez. Ce matin, le choix d'Emmanuel Macron était arrêté depuis dimanche soir.
Oui, c'était donc dimanche soir, autrement dit 36 heures avant la première réunion du Conseil de défense. Ce sera donc un reconfinement généralisé pour une période de 4 semaines reconductibles, le scénario que tout le monde redoutait. La seule solution en vérité pour maîtriser efficacement cette nouvelle vague épidémique, comme me l'a confié un conseiller de l'exécutif. Une source qui souligne qu'un durcissement du couvre-feu n'aurait pas permis un freinage suffisant du virus dans un contexte de saturation totale des hôpitaux dès la mi-novembre. Autre argument qui a convaincu le président, un confinement localisé aurait été, je cite, « une incohérence épidémiologique car tout le territoire est touché de façon plutôt homogène ».
Et il s'est passé quelque chose d'assez inédit hier.
Oui, c'est une chose exceptionnelle. À 15h, c'est-à-dire 2h30 avant la consultation des partis politiques à Matignon, eh bien le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet du Premier ministre, Nicolas Revel, ont organisé une réunion interministérielle d'urgence, et pas n'importe où, dans le bunker souterrain de la place Beauvau. L'objectif était d'annoncer ces mesures aux plus hauts responsables des différentes administrations et de voir comment il fallait les décliner. Je peux même vous dire qu'on a évoqué la question des fleuristes. Doivent-ils rester ouverts jusqu'à la Toussaint ? L'épineuse question des cultes, elle, sera abordée dans les prochaines heures avec les représentants des religions.
Les révélations de Louis de Ragnel pour Europe 1.
Alors, il y a un paramètre que nous ne pouvons pas pour l'heure mesurer, c'est pourtant essentiel. L'acceptation. Êtes-vous prêt, vous, à être confiné à nouveau. En Italie, en tout cas, les nouvelles restrictions passent mal.
Des milliers de personnes descendent chaque soir dans les rues des grandes villes avec parfois des heurts à Milan, Turin ces derniers jours et encore à Rome hier soir. Le gouvernement tente d'éteindre la colère et débloque en urgence 5 milliards d'euros d'aide.
Ce reconfinement d'automne pourrait moins paralyser la France qu'au printemps dernier. Vous l'entendiez dès le journal de 7h, les établissements scolaires resteraient ouverts avec protocoles sanitaires renforcés.
Tout comme certains commerces pour tenter de préserver au mieux la santé économique des choix appelés à être tranchés aujourd'hui, second conseil de défense. Question également sur le télétravail, sera-t-il encouragé, voire imposé?
Et j'en parle à François Asselin dans quelques minutes, le président de la Confédération des PME.
Les annonces d'Emmanuel Macron, le durcissement des mesures face au Covid, allocution ce soir 20h, vous pourrez la suivre sur Europe 1, suivi de débats et décryptages autour de Julien Bugier.
8h07 sur Europe 1, Michigan, Wisconsin, Nebraska, mais aussi Washington et Las Vegas, Donald Trump enchaîne les meetings à un rythme effréné à 6 jours du scrutin présidentiel.
Joe Biden est élu en Géorgie, il a promis de s'atteler à contrôler le Covid dès le premier jour de son mandat s'il est élu.
Et nous restons dans le sud du pays pour notre carnet de campagne ce matin. Bonjour Théo Manval.
Bonjour à tous.
On sillonne les États-Unis depuis 10 jours avec vous et aujourd'hui, le vote des jeunes, les moins de 30 ans, ils pourraient bien faire basculer l'élection car contrairement à d'habitude, ils vont voter massivement. On le sait grâce aux chiffres du vote anticipé quasiment décuplé chez ces jeunes dans certains États, comme en Caroline du Nord où vous vous trouvez.
Oui, plus de 200 000 électeurs de moins de 30 ans ont déjà voté ici. C'est 8 fois plus qu'il y a 4 ans au même stade. Quand on tend son micro sur le campus de l'Université de Caroline du Nord, l'immense majorité des étudiants et étudiantes a déjà renvoyé son bulletin par anticipation. Alors pourquoi une telle mobilisation cette année? Peyton termine ses études de médecine.
Ça nous semble juste plus important, je crois. 2016 a été comme un réveil pour beaucoup, un rappel que notre vote compte vraiment, et que si on ne s'en sert pas, ça a des conséquences.
Pourtant, un tel élan n'avait rien d'évident ces derniers mois. Ici comme ailleurs, les cours sont passés 100% en ligne, le campus quasi vide pour cause de pandémie. Les partis n'ont pas pu faire leur recrutement habituel pour inscrire ces jeunes sur les listes électorales. Donc on a essayé de se débrouiller en ligne, explique la présidente des jeunes démocrates de l'université. Et ça a marché. Écoutez Bronwyn et Grace.
J'ai reçu des SMS de la campagne Biden, des mails, des appels aussi, pour me rappeler de voter, avec des liens pour s'enregistrer sur Internet. Pour moi, le Covid, c'est le plus important.
Moi, c'est l'égalité femmes-hommes et l'égalité raciale, la couverture santé universelle aussi. Beaucoup de choses doivent changer. Joe Biden est la meilleure alternative.
Vous l'aurez compris, les jeunes électeurs votent majoritairement à gauche. Grâce à eux, les démocrates rêvent de remporter la Caroline du Nord qui leur échappe depuis 2008. Sauf qu'en face, les républicains enregistrent aussi des records d'inscription sur les listes. d'électeurs plus âgés dans des zones plus rurales que va chercher Sarah Reilly-Jones, militante du parti, dans l'ouest de l'État.
On continue le porte-à-porte, on va dans les lotissements, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester à la maison. On doit aller chercher les gens. C'est ça qui va faire la différence. La dernière fois, l'élection s'est jouée à deux personnes par circonscription. Si on gagne deux électeurs à chaque endroit, on peut faire basculer l'État.
C'est donc à qui mobilisera le plus dans les 6 jours qui restent pour remporter ce que la presse américaine a baptisé le plus incertain des États-clés.
Théo Manval, carnet de campagne de la présidentielle américaine tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
Théo, vos reportages et plus de détails encore photos à l'appui à retrouver sur europe1.fr.
Un match de football et un drôle de hasard. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue en Ligue des Champions à Istanbul à l'heure de fortes tensions entre France et Turquie. Tiens, dernier épisode en date, la publication ce matin en une de Charlie Hebdo d'une caricature du président Erdogan.
Et qui plus est, l'adversaire du PSG pourrait être surnommé le FC Erdogan. Il s'appelle le Başakşehir Istanbul, tout jeune club, pourtant champion de Turquie. Et il est souvent présenté comme le jouet du président turc, Axel May.
Le club porte le nom du nouveau district d'Istanbul où il est implanté, un quartier connu pour soutenir la politique conservatrice décomplexée de Recep Tayyip Erdogan. Lui, qui fut maire d'Istanbul dans les années 90, aurait sans doute préféré mettre la main sur l'une des 3 équipes historiques de la ville, Galatasaray, Fenerbahçe et le Beşiktaş. Mais Başakşehir, qui bénéficie depuis plusieurs années du soutien financier de proches du pouvoir, a pu attirer des joueurs de renom comme Emmanuel Adebayor, Gaël Clichy, Robinho. Enseignant à Sciences Po Rennes, Jean-François Polo est un fin connaisseur du football local.
Il a été acquis par un groupe privé, mais en effet ce sont des proches de Erdogan qui ont pris la direction. Donc c'est un club dans lequel il peut être présent sans risquer d'être contesté. Ce qui s'est passé dans les grands clubs d'Istanbul. Mais oui, il a l'impression d'être un petit peu chez lui dans ce club.
A tel point que lors de l'inauguration du nouveau stade, il y a 6 ans, Recep Tayyip Erdogan avait troqué son costume politique pour une tenue de footballeur, inscrivant un triplé face à une défense particulièrement passive.
Başakşehir, Istanbul, Paris Saint-Germain, coup d'envoi 18h55. Également ce soir, Rennes joue à Séville, chez le FC Séville à 21h. Et puis hier soir, nouvelle défaite des Marseillais, battus 3-0 à domicile par Manchester City.
Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h12.